Rock psychédélique à l'usage de mon fils, le premier podcast qui parle de rock et de paternité. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des Médias, Fonds d'aide à la création radiophonique.
Mais papa?
Oui?
Après quand j'aurai mangé, je vais dire un secret dans l'oreille.
D'accord. D'accord, c'est quoi le secret?
Bah non, voilà. Après, papa?
Oui, Camille. Toi aussi, tu veux me dire un secret? Rien compris.
Une grande voix. Une grande voix emplissait la pièce. Dans le salon chez mes grands-parents, un disque de Ima Sumac tournait souvent. La chanteuse péruvienne, Ima Sumac, descendante du dernier empereur Inca, avait calqué son chant sur celui des oiseaux de ses montagnes natales. Je devais avoir 4 ou 5 ans et j'étais fasciné. Cette manière de chanter ne ressemblait à rien d'autre. Quelques années après, mes parents en ont eu assez de devoir retourner des vinyles toutes les 22 minutes. Alors, ils m'ont offert un enregistreur rouge à cassette. Je pouvais coller le micro contre le haut-parleur et créer ma propre compilation.
8 mars 89.
L'une de mes cassettes débutait par All Dead de Queen. Lors de l'enregistrement, le chien des voisins avait lancé quelques aboiements qui avaient fini sur l'intro à cause de la fenêtre de la cuisine restée ouverte. J'ai tellement écouté cette cassette que aujourd'hui encore, quand All Dead passe, j'entends toujours le chien sur l'intro. Pour créer ma compile, je guettais certains disques à la radio. J'attendais le bon moment pour enregistrer et tout stopper. Parfois, il fallait aller vite.
Je m'amuse à faire du dessin de science-fiction.
C'est ce que j'ai vu tout à l'heure en coulisses.
Sur ma compile, il y avait aussi un extrait de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, enregistré depuis la fenêtre de ma chambre parce que le voisin écoutait tous les jours à la même heure à fond ce disque. Et j'aimais bien l'écho que la distance ajoutait à la voix de Claire Tory, avec toujours ce fichu chien qui venait gâcher l'enregistrement. Bien plus tard, quand Internet est venu bouleverser mon monde musical, j'ai découvert beaucoup d'autres grandes voix, des talents immenses, restés injustement méconnus. Utanian Hose, du groupe Analogy. Rose Lawrence, de Sandrose. Rose Lawrence qui a finalement connu le succès dans les 80s avec un titre grand public. Sylvana Liotta de Circus 2000. Jinx Dawson, The Coven. Carmeta Mancilla, du Book of Fame. Majestic is knowledge. Avec qui j'ai eu la chance de travailler. Reconnue un peu tard, après sa mort, comme l'une des plus grandes voix de la musique psychédélique. Une voix animée par l'émotion, la conviction, une flamme.
Je flambe. cruel. Je me consume. Je fume.
Disque 2, face A. Fais ce que voudra.
Est-ce que finalement le rock psychédélique, ce n'est pas un sujet qui dépasse un enfant de 4 ans? Style, comment je suis venu au monde?
Madame Bidou, maman!
Oui, quoi?
Et bah, je crois plutôt que bah, on a ouvert son bidou à maman.
Oui?
On en a dedans.
Ah oui, t'as mis dedans, oui.
Oui, et à la presque pas mal.
Oui.
Et après, on a mis tout doucement dedans.
Oui. Et toi, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais dans le bidou de maman, alors?
Eh ben, je pouvais absolument pas jouer. Je pouvais plus faire quelque chose. Parce que tu sais pourquoi? Parce que dans les bidous des mamans, papa, on peut rien faire dans les bidous des parents, papa.
Ben, on s'ennuyait alors.
Bah oui, beaucoup.
Mais qu'est-ce que tu faisais alors? Ça a quand même duré 9 mois.
Mais oui, mais en fait, quand c'était... quand on dort, c'est pareil. Et je pouvais rien faire, en fait. On pouvait ni m'habiller en pyjama, et je pouvais même pas boire de l'eau. J'avais tellement soif que je pouvais pas boire de l'eau dans le bidou de maman, en fait.
T'as pas vu pendant 9 mois dans le ventre de maman, tu crois?
Oui, parce que j'ai même pas eu, parce que j'ai même pas eu de verre, rien du tout.
Oui, pas de verre, bah oui.
Alors, dans ces conditions, comment expliquer mon travail de musique à Louis? C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Mathilde Fernandez. D'abord parce qu'elle s'inscrit clairement dans la lignée des grandes voix que j'apprécie tant, et aussi parce que son univers partage des traits communs avec le mien. Un aspect cinématographique, une envie de raconter des histoires par le son, l'envie d'être libre grâce à son art. Cerise sur le gâteau, sur son Bandcamp, Mathilde définit sa musique comme psychédélique. Direction Bruxelles.
On fait comme si on venait de se rencontrer. Attention, ouais, comédien. Mathilde Fernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors, si la liberté artistique avait un visage, ce serait probablement le tien. Liberté artistique, liberté de style musical, liberté au niveau des labels, des sorties, esprit do it yourself total et assumé. Quel est le prix à payer pour cette liberté?
Waouh, le prix à payer pour cette liberté, on va dire c'est plus pour moi une contrainte actuellement qu'une liberté.
Ouais.
Après, faire ce que je veux, produire comme je veux, avec qui je veux, c'est effectivement une liberté. Maintenant, il y a une réalité économique à tout ça qui... Enfin, je vais pas te raconter comment c'est super facile d'être musicien.
Non.
Non, mais je me plains pas, franchement, c'est chouette. Je fais que ce qui me plaît.
C'est bien.
Voilà.
Liberté totale.
Quitte à vivre la bohème.
Alors, la question bateau, posée 1000 fois. Tu es originaire de Nice, après un passage par la Suisse, tu t'installes à Bruxelles il y a 5 ans. Pourquoi ici? Pourquoi la Belgique?
À l'époque, je travaillais dans le milieu des arts vivants. Et je venais de terminer mes études aux Beaux-Arts à la Villa Arson. Et on va dire que ce qui m'intéressait, c'était on va dire les productions art vivant transversales. Et qu'en Belgique, vous êtes très fort pour ça. Il y a plein de compagnies chouettes. Finalement, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai laissé tomber cet univers-là pour me plonger pleinement dans la musique. Mais aujourd'hui, par exemple, comme je travaille la plupart du temps à Paris aussi, les gens me demandent « Mais pourquoi tu habites pas à Paris ?» Et vraiment, j'ai pas envie. J'ai envie de rester en Belgique. J'adore l'esprit belge et la liberté aussi.
Et justement, qu'est-ce que tu penses du soutien des artistes ici en Belgique? Parce que tu as un point de vue peut-être plus extérieur que moi.
Alors, les médias, ça dépend lesquels, parce qu'il y a les médias, on va dire, comme Radio Rectangle, en l'occurrence. Puis il y a les médias comme la RTBF.
Ouais.
J'ai l'impression que le soutien, il vient quand il y a un label, un gros label, en l'occurrence Universal ou des choses comme ça. Donc là, quand on est chez Universal, j'ai l'impression qu'il y a vachement de soutien.
Ouais.
Étrangement.
C'est bizarre.
Étrangement.
Bizarre.
Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. Je pense qu'il y a un peu de travail à faire encore. Par exemple, si on est un artiste sans label ou sans projet d'album, et notamment sans label, c'est très difficile d'avoir des subventions.
Ouais.
Alors, je peux comprendre la logique derrière tout ça, mais en fait, aujourd'hui, pour certains artistes, avoir un label indépendant ou ne pas avoir de label, ça revient un peu au même.
Exact.
Donc par exemple, moi je ne peux pas demander de subvention à la Belgique parce que je n'ai pas de label. Voilà, pour faire la promotion de mon prochain disque, je ne peux pas passer par ces réseaux-là, mais peut-être que ça va évoluer et je l'espère. J'ai quand même eu la chance de gagner un prix l'an dernier au F dans le texte, qui est un concours pour les artistes musiciens qui chantent en français.
Mmh.
Donc je ne peux pas me plaindre non plus, j'ai quand même bénéficié de cette aide-là, qui était une aide financière. Je peux faire la comparaison avec Paris. Bon, évidemment, Paris, c'est une plus grande ville, il y a plus de réseaux, etc. Mais j'ai la sensation qu'il y a quand même pas mal de possibilités organisées par la ville,
ouais.
Notamment des salles qui sont mises à disposition des artistes, ou des lieux de résidence, des concours, des choses comme ça. Alors, soit je me renseigne très mal, ce qui est possible, en fait. Mais j'ai la sensation qu'on est tous un petit peu ballottés, les musiciens indépendants qui habitons la Belgique, entre les 2-3 médias qui veulent bien parler de nous, les 2-3 festivals qui pourraient éventuellement nous représenter.
Oui. Tu cites aux côtés de la pop baroque, la musique électronique et lyrique, le psychédélisme comme influence. Pourquoi le choix de revendiquer cette étiquette psychédélique ?
Parce que mes premières expériences musicales sont assez psychées. Parce que j'avais dans ma famille, mon oncle et mon cousin avaient un groupe ensemble.
De progressif.
De progressif.
Oui. C'était quoi le...
Ça s'appelle Shylock. Encore sur internet,
ouais.
Ils ont sorti quelques albums à l'époque, c'est des 33 tours, etc. Mais ça m'a beaucoup marqué, ça m'a porté pendant toute mon enfance. Puis mes parents écoutaient plutôt ce genre de musique. On écoutait Can. Genesis, Peter Gabriel, tu vois, donc c'était vraiment ce type de musique. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Il y a une forme de liberté là-dedans, dans ce genre de musique que je retrouve. Et puis aussi des univers, des sonorités. Pink Floyd, je m'éclate toujours autant quand j'écoute leurs albums. Quoi. Ça me transporte toujours autant. Rolling waves in labyrinths of coral. Je trouve qu'il y a un côté qui se démode pas.
Ouais.
Et j'écoute d'autres trucs qui quand je les réécoute, tu vois, j'ai une nostalgie. Pink Floyd, j'ai pas de nostalgie quand j'écoute ça. C'est pas du tout mon époque. Peut-être que tu demandes à quelqu'un qui a 60 ans de me parler de Pink Floyd et de réécouter Pink Floyd, il aura peut-être plus de nostalgie que moi. Moi, je trouve ça génial ce genre de musique, ça me transporte complètement. Alors, je sais pas si ça se traduit immédiatement dans ce qu'on peut écouter de mes productions. C'est par petites touches.
C'est ça. Je suis heureux de te rencontrer parce qu'on a pas mal de points communs artistiques. Donc, je vais te donner des affirmations sur ta musique, mais qui peuvent concerner aussi ma musique. Tu me dis si j'ai vu juste, si on a ça en commun ou pas du tout. Ouais. Premier point commun, il y a un aspect cinématographique très fort dans ta musique.
Oui, c'est vrai. Je dois développer.
Oui, ce serait bien.
Alors, oui, effectivement, il y a un aspect cinématographique, évidemment. Moi, j'ai toujours regardé beaucoup de films. Dans ma famille, mon frère fait du cinéma. Donc, on imagine très vite, parce qu'on collabore depuis plusieurs années sur mes clips notamment. On imagine tout de suite en image,
ouais.
La musique.
Il y a un côté un peu cinéma bis, non, dans ton univers.
Oui, c'est ça. Après, moi, je suis une grande fan de Terry Gilliam, des films voilà, qui ont l'air de se casser un peu la gueule, mais qui tiennent la route. Des films bizarres comme Le Baron de Munchausen, des choses comme ça. Voilà, les films surréalistes, Cocteau, Jodorowsky, des choses comme ça. C'est des inspirations qui... Voilà, ça marche dans les deux sens. C'est la musique inspire l'image, l'image inspire la musique.
C'est ça. Deuxième point commun, tu es aussi entre respect des influences du classique et envie de balancer un grand coup de pied là-dedans.
Oui, c'est vrai. Alors, je me pose pas... J'ai pas envie de bousiller le classique en mettant le pied dans la fourmilière, mais moi, je n'ai aucune formation classique.
Tu n'as pas de formation.
Je n'ai aucune formation. D'accord. Musicale, en fait.
Ah oui.
Donc, j'ai toujours fait du piano, puis j'ai commencé à chanter, j'ai pris quelques cours de chant. Aujourd'hui, je fais attention à ma voix, donc je me fais coacher, entre guillemets, mais je ne sais pas lire la musique. Donc, en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui sait lire une partition.
Ouais. Troisième point commun, l'aspect religieux est très présent dans ta musique, une certaine fascination, mais davantage autour de la symbolique que la croyance. Je dis juste ou...
Exactement. Ah. Moi, je ne suis pas religieuse pour un sou.
Non.
Mais c'est vrai qu'il y a tout un aspect très mystique dans ma musique, et notamment j'adore les symboles religieux, mais ça s'élargit à pas seulement le christianisme,
non, toutes les religions,
la religion hindoue, et puis même encore plus loin que ça, à l'ésotérisme.
Quatrième point commun, ta musique ressemble à tout et à rien en même temps. C'est finalement ce qui fait la richesse de ton style, et ce n'est pas prémédité. Même si tu voulais faire autre chose, ce serait impossible, tu ne peux faire que du Martin Fernandez.
Même quand je joue avec d'autres, j'ai du mal à sortir de ça. De toute façon, mes collaborations, généralement, c'est des featuring. C'est pas je joue pour un autre groupe. Je pourrais pas jouer dans un autre groupe.
Et alors, cinquième point commun, le concept qui se cache derrière un disque est aussi important que la musique, parce que là, ça porte le projet.
Oui, c'est ça. Comme des recueils.
Ouais.
Comme des recueils, comme des films. Donc, effectivement, le premier EP, Live à Las Vegas, ça raconte... En tout cas, tout vient d'une même racine.
Oui, les quatre morceaux sont liés, on le sent bien.
Voilà.
Peut-être pas forcément les mêmes personnages d'un morceau à l'autre, mais il y a un lien entre...
C'est ça, il y a une narration,
ouais,
une forme de narration.
Tu décris ton EP, Live à Las Vegas, comme le parcours d'une héroïne qui pense avoir été choisie pour mener une vie remarquable, mais qui réalise que le temps lui est passé dessus. Alors, est-ce que le fait d'être artiste ne traduit pas d'office qu'on se fait une idée remarquable de qui on est?
Très certainement. Tu me demandes si je suis narcissique, en fait. Oui, on est le créateur. En tout cas, je sais pas trop comment l'expliquer autrement que j'ai toujours eu une urgence de créer et de faire, en l'occurrence, cette musique. Je me réveille le matin, c'est ça que je fais, quoi. En tout cas, je le fais. Je me réveille pour ça le matin, et puis j'ai cette foi, en fait, en moi qui me porte, et j'ai celle aussi des gens qui me suivent et qui suivent mon travail.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'exprimer son art, finalement, sans rechercher l'attention du public à tout prix, parce qu'avec les réseaux sociaux, l'importance qui est donnée aussi au culte de l'image dans notre société?
Il faut... Enfin, je pense que c'est important de s'occuper de son public. Maintenant, au moment même de la création, je m'occupe de rien d'autre que de mon inspiration, en fait, de ce que j'ai besoin de régler. En écrivant ce morceau, souvent c'est ça, si j'ai besoin de régler quelque chose, alors j'écris. Il faut être romantique, mais il faut vivre avec son temps. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à alimenter, c'est ce que les gens veulent.
C'est un peu triste quand même, non?
Je le vis pas comme ça, moi.
Non, toi tu le vis.
Non, c'est un boulot.
C'est un boulot, ouais. Notre époque semble celle du EP, donc c'est un mini-album qui offre entre 11 et 29 minutes de musique. Est-ce que le LP, donc l'album classique de 45 minutes, a un coup dans l'aile aujourd'hui? Si oui, quelles sont les causes? Numérique, paresse des artistes, budget serré, choix artistique?
Toutes tes options sont des réponses. Moi, je me sens pas trop concernée par le LP. J'achète pas mal de musique, mais j'achète peu d'albums.
Ah oui.
C'est assez rare. Pourquoi? Parce que je fais partie de cette nouvelle génération. On achète un morceau par morceau.
Mais tu vois, par exemple, pour ton EP, c'est dommage si on achète mon extrait un
oui,
ou deux morceaux, parce que je trouve
mais
qu'ils
c'est
vont
un
bien
EP.
Ensemble.
C'est
quoi.
Un EP, c'est plus ça. Court. On n'arrive plus à se concentrer aujourd'hui. T'imagines rester 45 minutes dans ton fauteuil à écouter de la musique, ça n'existe plus, c'est une voie de disparition.
Moi, j'aime bien,
Oui, mais toi, tu es peut-être un dinosaure. Non, mais je le vois bien.
Donc, tu sortiras que des EP, quoi, si je peux combattre.
Jamais
d'album.
Moi, j'aime bien, ouais, je pense que c'est chouette. Après, il peut y avoir des petits albums. Généralement, c'est waouh, on sort le premier album, le deuxième. Bon, soit il est attendu, soit il l'est pas. Dans le cas où il l'est pas, t'as déjà un pied dans la tombe, quoi, en tant qu'artiste. Donc ça me fait aussi un peu peur. Je trouve que les artistes qui sortent peu de choses, finalement, c'est peut-être une sécurité, ça garde ça tease le désir toujours.
Aujourd'hui, tu as deux types d'artistes, t'as ce que tu viens de décrire, mais tu as aussi des artistes américains beaucoup, mais qui sortent, voilà. Par exemple, on a King Gizzard, ils ont sorti 5 albums sur l'année.
Ouais. Alors, tu sais, moi j'aime bien les extrêmes. Je trouve ça génial de sortir 5 albums faits maison en un an. Et je trouve ça génial de sortir un album en 10 ans aussi. Donc c'est un peu difficile pour moi de me positionner là-dessus. Je fais comme je peux.
D'accord. C'est dommage que ça me plaît parce que quand on l'écoute, on est obligé de l'écouter 4 fois. Si on veut écouter
oui, mais comme ça on connaît bien après.
Si tu devais expliquer à un enfant de 4 ans ton univers artistique, tu lui dirais quoi?
Je lui fais écouter. J'ai pas mal de public chez moins de 5 ans. C'est extraordinaire.
Mathilde avait raison. Il ne fallait pas parler de rock psychédélique à Louis. Il fallait lui faire écouter. Parce que sinon, comme pour toute conversation qui dépasse un peu Louis, ça risquait inévitablement de partir en vrille.
C'est pour ça que je me sens pas beaucoup ennuyée avec Adé et moi quand j'étais dans le lit de maman.
Oui.
Parfois.
Parce que tu t'es ennuyée pendant 9 mois, quand maman était enceinte, tu t'es ennuyée pendant 9 mois.
Oui.
Et depuis que tu es ici, tu as décidé de plus jamais t'ennuyer, c'est ça?
Non. J'ai compris. C'est ça, mais.
Mais tu as raison, c'est une belle philosophie de la vie, d'essayer de ne jamais s'ennuyer.
Pourquoi est-ce qu'on va faire maintenant?
Je sais pas.
Tu m'ennuies là.
Ah bon?